Frères et sœurs, Jésus-Christ, la paix et la grâce du Seigneur soient avec nous tous. Amen. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Ouvre-moi l'intelligence. Répands sur moi ta lumière, afin que je puisse saisir les fondements de ta parole. Et regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. La Providence m'a mis dans la tête en accord avec notre thème de l'année, que nous savons tous maintenant, c'est que nous devons rendre gloire à Dieu dans tous les aspects de notre vie. Dans tous les aspects de notre vie. Et le thème rentre en plein accord avec le sujet que j'ai choisi pour ce matin, c'est que louer Dieu, c'est obéir. Nous ne pouvons pas croire que nous sommes capables de louer Dieu si nous n'obéissons pas à Dieu. Et là-dessus, vous allez lire avec moi, je lirai pour vous, le chapitre 8 du livre de Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 8. Et ce chapitre a pour titre la terre promise et la reconnaissance envers Dieu. Chapitre 8 du livre de Deutéronome. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point renflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, Tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Puisse le Seigneur bénir la lecture de sa parole pour l'édification de nos âmes. Amen. Eh bien, quand je lis ce chapitre, j'ai l'impression, et sans nul doute, j'ai la certitude que cette parole s'adresse à moi et s'adresse aussi à vous autres. Nous devons prendre conscience et nous devons affirmer à qui veut l'entendre que si nous sommes là aujourd'hui, c'est par la grâce et la puissance de Dieu. Nous savons ce qui se passe chez nous. Et encore avant hier soir, je regardais sur le petit écran d'un téléphone intelligent comment un bandit circulant à motocyclette à Port-au-Prince, en Haïti, se fait attraper et il a été complètement déshabillé, mis à nu, les pieds amarrés, les bras attachés, couché sur le ventre, et on n'a pas cessé de battre cet homme, de le rosser littéralement, parce que la jouissance de sa vie, c'était d'attraper des adolescents, des jeunes qui sortaient de l'école, des étrangers qui rentraient au pays comme touristes, et des Haïtiens aussi, et il les dépouillait littéralement. Vous savez que la motocyclette est utilisée énormément en Haïti comme taxi, pour ceux-là qui ne le savent pas. Comme taxi. Bien sûr, ils ne sont pas tous pareils, mais il y en a qui le font. On vous fait asseoir en arrière de la moto et on va vous conduire à destination. Mais malheureusement, les chemins détournés sont là et à un moment donné, vous ne savez plus où vous allez. Et c'est la débâcle. et c'est le stress, et c'est les larmes, et on vous prend, on vous installe quelque part, et on vous demande de donner bien souvent ce que vous n'avez pas. On vous demande de l'argent et parfois autre chose. Et même après ça, Satan est en marche. On vous prend ce que vous avez et on vous descend. C'est pas descendre d'un escalier là, on vous descend. Vous m'excusez de faire ce genre de digression parce que en laissant Haïti pour venir dans ce pays où coule le lait et le miel, dans ce pays où l'eau ne manque pas, contrairement à notre pays d'origine. L'eau se vend, et l'eau qui se vend en Haïti, la plupart du temps, est une eau complètement sale, avec laquelle on peut se servir pour faire de la lessive, pour faire du travail domestique. Mais c'est une situation qui est devenue pénible, intolérable. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Voilà pourquoi le chapitre que nous venons de lire, pour moi, rentre dans le cadre de « Rendons gloire à Dieu dans tous les aspects de notre vie ». Louer Dieu, donc, c'est obéir. L'obéissance, pour une définition très simple, n'est autre chose que de se soumettre à la volonté de Dieu. Et en passant, exécuter ses ordres. Si on ne le fait pas, la porte est ouverte ou elle est fermée. Vous obéissez ou vous n'obéissez pas. Et l'on va voir dans quelques instants ce qui peut arriver quand on désobéit. Parce que la désobéissance, je l'avais dit une fois, je m'en souviens, la désobéissance est toujours punie. La désobéissance est toujours punie. Quand je regarde le commencement de la Bible dans le livre de Genèse, je m'aperçois donc que Dieu est le point de départ de Genèse. Parfois nous oublions en disant que c'est Adam et Ève. Non, ce n'est pas Adam et Ève, c'est Dieu le point de départ de Genèse. Comment ? Par sa puissance, par sa sagesse. Il a créé le monde et il a atteint son apogée, je peux dire, dans la création de l'homme. Ce qui signifie que quand Dieu a créé Adam et Ève, les deux étaient purs et sans péché. Les deux étaient purs et sans péché. Il ne venait pas d'une femme ou d'un autre homme, il venait de Dieu et par conséquent, ils étaient purs. Cela, pour moi, signifie que quand nous lisons « Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance », c'est là ce qui entre dans Adam et Ève, nés purs et sans péché. Parce que Dieu est pur et sans péché. Alors, malheureusement, ils ont mangé du fruit de l'arbre par désobéissance, parce que cela leur était interdit. Ils ont désobéi, donc ils sont devenus pécheurs, et par conséquent, avec leur désobéissance volontaire, Satan est entré dans le jeu. Satan, à partir de ce moment-là, est capable de se présenter sans masque. Aujourd'hui, Satan fonctionne à visage découvert. Aujourd'hui, depuis Adam et Ève, bien sûr. Mais aujourd'hui, le bât blesse, parce que les choses que nous voyons, nous n'espérions jamais voir pareille chose sur cette terre. Et semble-t-il que de génération en génération, les choses semblent ne pas s'améliorer. Pourquoi? Parce que il y a tous les moyens de communication qui sont là pour permettre au mal d'engendrer le mal. Vous savez ça, le mal engendre le mal. Notre Dieu nous demande de rester en relation avec lui. Et puisque nous vivons dans un monde complètement chaviré, il nous demande d'apprendre à discerner comme il faut le mal et le bien. Les petits enfants d'aujourd'hui, âgés de 3 ans, 4 ans, 5 ans, n'hésitent pas à demander à leurs parents, même pas demander, mais à affirmer à leurs parents, parce que j'ai vécu cette expérience-là, c'est pour ça que je vous en parle. Ils n'ont pas peur de dire à leurs parents ou à leurs grands-parents, mais pourquoi parlez-vous beaucoup comme ça? Mais tu parles tout le temps. Quand c'est pas maman, c'est papa. Tu as toujours quelque chose à dire. Il me semble qu'à l'âge de 3 ans, à notre époque, on vivait beaucoup plus avec la bouche close. Hein? Et voilà donc la désobéissance installée comme il faut sur cette terre depuis Adam et Ève. Mais aujourd'hui, la désobéissance est encore plus évidente. D'ailleurs, vous constatez que quand les hommes sont placés devant des choix importants, ils choisissent bien souvent de ne plus suivre le plan de Dieu, mais au contraire, ils lui désobéissent. Et à ce moment-là, c'est la vanité, c'est l'homme, l'ego, qui entre en ligne de compte. Et c'est pour ça que la Bible nous explique pourquoi l'homme est mauvais. C'est vrai que l'homme est mauvais. Et parce que nous croyons en Dieu, devenu chrétien, nous faisons tout ce qui est possible pour ne pas mal agir. Croyez-moi, même les grands héros de la Bible ont désobéi à Dieu. Je vais vous donner des exemples tantôt. Cependant, Dieu a toujours tenu ses promesses. Et Dieu n'a jamais renié ses promesses. Il nous a toujours promis de nous aider, de nous accueillir, de nous pardonner. Une façon de nous dire que le seul moyen d'obtenir, de bénéficier en quelque sorte des promesses de Dieu, nous devons obéir à Dieu. Les préceptes, les commandements de Dieu ne sont pas cachés, frères et sœurs. Ça existe depuis la venue des temps, depuis longtemps déjà. Les commandements sont là pour nous rappeler constamment ce que nous devons faire pour pouvoir obéir à Dieu. Nous chantons nous-mêmes bien souvent que nous devons louer Dieu, ou aimer Dieu, obéir à Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Mais de tout notre cœur, en l'aimant. Puis en l'aimant, mais en l'aimant plus que tout. Ça veut dire que nous devons aimer Dieu plus que nous-mêmes, plus que notre épouse ou notre mari, parce que c'est Dieu le souverain maître de toutes choses. Ce n'est pas pour rien que bien souvent, à la maison, ou même ici, là où le Seigneur nous accueille dans son Saint-Temple, que très souvent, on se retrouve même à chanter tout seul, « Nul n'est comme toi, nul n'a su m'aimer autant que toi. » Nous devons donc lui obéir avec toute notre volonté en nous consacrant entièrement à lui. C'est pour ça que nous chantons « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. » Et nous devons aussi le faire avec notre esprit en cherchant à le connaître dans sa parole, frères et sœurs. L'étude biblique du mercredi soir, c'est quelque chose de sacré, vous savez. Quand on vient à l'étude biblique du mercredi soir, on sort de là enrichi, joyeux, content. C'est de 7 à 9. On se plaignait avant en disant que ça finit pas à 9 heures. Notre pasteur finit 5, 10, 15 minutes parfois avant 9 heures et près de 10 heures du soir, on est encore en bas. Allez donc comprendre ce que cela signifie. On dirait que nous ne voulons plus nous séparer. Nous prions et nous disons, Seigneur, accompagne-nous, nous allons retourner au bercail. Il est 9 heures, 10 heures moins, on est en bas. Ça veut dire donc que nous devons chercher à connaître Dieu par sa parole, dans ses principes, dans ses valeurs, à la base même de nos pensées et de nos actes, dans ce que nous faisons. Toi qui dispose de toutes choses, le chaque jour. Nous devons aussi notre prière, reconnaissance et l'amour. Avec ce que nous avons, nos possessions, mais nous ne possédons rien en réalité. Nous croyons que nous possédons quelque chose, mais nous ne possédons rien. La maison pour laquelle nous nous débattons chaque jour pour l'embellir, apporter ceci, rentrer cela, décorer ceci, faire cela, rien ne nous appartient, frères et sœurs. Les inondations ont bien prouvé que les maisons n'appartiennent à personne. Et pour moi, rien ne peut se faire sans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Nous avons des maisons, oui, mais tout ce que Dieu nous demande, c'est de les gérer comme propriétaires, mais de ne pas nous enorgueillir à savoir que je possède une maison, je possède une carrosse. Je n'ai rien à envier à la reine. Et la parole nous dit aussi que même notre avenir n'est pas à nous. L'avenir est à Dieu. Parce que vous ne savez pas, moi non plus, ce qui va se passer à 4 heures de l'après-midi, à 2 heures de l'après-midi, cette nuit, je ne sais pas. Se peut-il que je me couche et que je ne me réveille pas? Je ne sais pas. Notre avenir, nous pouvons tout simplement contempler Dieu en faisant du service envers Dieu et envers les hommes et les femmes une priorité. Une priorité, c'est-à-dire que quand on sert Dieu, on est dépouillé. On n'est plus soi-même. On est quelqu'un d'autre que Dieu regarde, parce que Dieu voit, il entend, il nous écoute. De faire de Dieu une priorité. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. C'est ça, le feu. Et nous verrons, si vous voulez bien regarder avec moi le 3e verset du chapitre 8 que nous venons de lire. Le 3e verset du chapitre 8, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça nous rappelle Matthieu chapitre 4, verset 4. Matthieu 4, 4. Lorsque le diable demanda à notre Seigneur de transformer les pierres en pain. Oui, il existe encore des gens qui ont les moyens de vivre que Dieu leur a accordé, qui pensent que le sens de la vie se réduit à la satisfaction des appétits. Ah, moi, je ne vais pas manger ci, je ne vais pas manger ça. C'est tel bagaille que manger. Je ne vais pas manger arançon. Arançon trop fort. Il était qu'on mangeait loin avant. Croyez-moi, il était qu'on mangeait loin avant. Mais, mon Dieu, une balle, prospérité, ça marche. Et les choses prennent des tournants complètement difficiles. Surtout si c'est quelqu'un qui gagne assez d'argent pour vivre, pour s'habiller, mener un train de vie confortable. Il pense avoir une bonne vie. Malheureusement, c'est la tristesse que l'homme endure quand il ne connaît pas que Dieu est son maître et que c'est Dieu qui fait les choses. Je l'ai dit la dernière fois, je ne l'ai pas oublié, je le répète à moi-même, chez moi, Dieu fait, Dieu laisse faire, Dieu fait faire et Dieu défait. Moïse l'a dit aux Israélites que vivre la vie, c'est vivre consacré à Dieu, le créateur de la vie elle-même. Tu ne peux pas vouloir dépasser celui qui t'a créé. C'est impossible. Même si, en tant que chrétien, mes parents n'étaient pas riches, mais mon Dieu, comme on était heureux à la maison. On était bien, on vivait bien, on était 8, on se taquinait, on volait la cuisse de poulet de l'autre pendant qu'on lui disait « Regarde un oiseau qui passe au ciel. Toi, tu lèves la tête pour regarder l'oiseau, puis lui, il prend ta cuisse de poulet. Mais on était bien, on était heureux, on vivait dans la joie. On mangeait régulièrement chaque jour, en sortant de l'école le midi, le soir, on rentrait à la maison, le souper était là, on mangeait, et on devait s'asseoir, comme on est supposé s'asseoir, et on ne goûtait pas à manger tant que papa ne venait pas s'asseoir d'abord pour que maman lui passe les meilleurs morceaux. On regardait ça jalousement, mais que voulez-vous? C'était ça la vie. Nous devons nous nourrir de toutes les paroles de Dieu. Cela signifie donc que nous avons besoin de sa parole. L'étude biblique du mercredi soir. On en apprend beaucoup, on n'a jamais fini d'apprendre et on va encore en apprendre chaque mercredi. Nous devons prier pour qu'il soit présent dans nos affaires, qu'il nous éclaire de sa sagesse et nous guide dans notre lecture. Nous devons savourer la relation que nous avons avec Dieu à travers Christ. Beaucoup de gens, et même beaucoup de chrétiens, prennent souvent la protection de Dieu comme allant de soi. Comme si c'était gratuit, donné. Comme si c'était un arbre fruitier. On n'a qu'à y mettre la main, on cueille le fruit, puis on mange. Mais ce n'est pas vrai, ça. C'est loin d'être vrai. C'est loin d'être vrai. Quand nous sommes dans la voiture, puis que ça roule bien, est-ce que nous disons merci Seigneur? Imaginez-vous l'hiver si cette voiture-là dit au bien milieu de la route qu'elle ne veut plus continuer. Vous allez savoir que Dieu existe, croyez-moi. Avoir de la nourriture à gogo, mais cette nourriture-là, c'est pour partager avec ceux-là qui ont faim, qui ont soif et qui n'en ont pas. Bien des gens conservent de la nourriture qui ne veulent plus manger deux ou trois jours plus tard, qui se gâtent et qui sont en train de jeter littéralement. Toute la nourriture jetée aux États-Unis est capable de nourrir la France. Est capable de nourrir la France. Toute la nourriture jetée au Canada est capable de nourrir notre Haïti chéri. Mais Dieu nous voit, Dieu nous entend, Dieu nous écoute. Moi, je n'ai pas à cacher quoi que ce soit. La nourriture que je ne mange pas aujourd'hui, le restant, mais je le garde et je le mange demain. Je le garde et je le mange demain. Je ne suis pas un chef cuisinier, mais je sais comment me défendre pour ne pas mourir de faim. Les Israélites avaient le même genre d'attitude. C'est pour vous dire que ce n'est pas des choses qui existent d'aujourd'hui, mais qui existent déjà depuis belle lurette. Et c'est pour ça que Moïse a dû leur rappeler que les 40 années passées dans le désert, figurez-vous, 40 années. 40 années. Leurs habits ne sont pas sales. Leurs pieds, leurs chaussures ne sont pas déchirées. 40 années. Leurs pieds ne sont pas usés. Ils n'ont pas eu de corps aux pieds. Celui qui marchait à pied dans les cailloux, dans le sable, dans les roches, dans la boue, rendu ici, s'il est pieds nus, il est en train de marcher sur la pointe des pieds. Tu lui demandes, qu'est-ce que tu as? Je ne peux pas marcher, non, à tes sous. pour tout ce qui dure, tout ce qui est nécessaire, tout ce que nous sommes capables de faire. Et ça, c'est dans le 4e verset du chapitre 8 qu'on vient de lire, le temps me bouscule, mais nous devons remercier Dieu pour ce qu'il fait pour nous chaque jour, chaque instant, d'heure en heure, de minute en minute. Je vous dirai une chose qui est très simple. Très souvent, les bénédictions de Dieu sont discrètes. Très souvent, les bénédictions de Dieu sont discrètes. Tu ne t'aperçois pas, tu ne comprends pas, tu ne reconnais pas. Mais Dieu t'a béni discrètement. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore que remercier Dieu avant les repas, ce qui est recommandé, bien sûr, qui ne comprennent pas que la nourriture comme telle, sur table, c'est une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction parce que nous mangeons ce que nous aimons, nous mangeons à notre faim, alors qu'il y en a des milliers et des millions qui souffrent amèrement. La disette, la faim, quelle surprise quand on m'a montré que dans mon pays d'origine, les gens marchent avec des couilles, des couilles. Il y en a qui disent des couilles, je ne sais pas là, des couilles, pour demander de la nourriture. Avant, on demandait de l'argent, maintenant on demande de l'argent et de la nourriture. Et jusqu'ici, ici, à Montréal, au Canada, aux États-Unis, le mot est passé. Non seulement vous devez envoyer de l'argent, mais vous devez aussi envoyer des provisions. Je m'excuse, c'est la vérité. L'obéissance, peut-être parfois, ça peut être un sacrifice. Mais nous devons consentir à obéir. Jésus-Christ lui-même a obéi à son Père. Sur le chemin de la croix et sur la croix. A obéi à son Père. Et Dieu ne veut pas que nous lui obéissions par simple formalisme ou même par hypocrisie. Parce que si on veut obéir, il faut obéir absolument, totalement, nettement. On ne peut pas obéir à Dieu à moitié. C'est pas vrai. Si on obéit à moitié, on n'a pas obéi. Il faut obéir totalement. Pourquoi? Parce que il veut que nous l'aimions, puis que nous lui obéissions comme lui, il a obéi à son Père. Il nous l'a dit, hein? L'obéissance vaut mieux, fils. Dieu n'est pas intéressé par les sacrifices, mais plutôt par un cœur, nous l'avons chanté combien de fois, un cœur humilié, brisé, contrit. Il ne veut pas de sacrifices, il veut l'obéissance. Et quand on obéit, on est vraiment son peuple. Dieu veut que nous ayons une bonté envers nous-mêmes, envers nous tous. Parce que nous n'arrivons pas à tromper Dieu avec les faux semblants. Les faux semblants, ce que l'Américain appelle le make-believe. Ou à faire mon coin que. et quel que soit le nombre de sacrifices qu'on fait à Dieu, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions agir avec justice, avec bonté. Et l'autre chose que Dieu demande beaucoup, énormément, toujours, tout le temps, à ses enfants, à ses serviteurs, c'est l'humilité. 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 Toutes les désobéissances qui ont été faites, il y en a tout un nombre que j'ai aligné ici. Ézéchiel, c'en est un, qui s'est tenu debout pour recevoir le message de Dieu, qui s'est enfermé chez lui, attaché. Ce sont des actes d'obéissance. Il a fidèlement proclamé le message de Dieu. Il a dessiné Jérusalem sur une brique et a mimé son siège. N'oublions pas, il s'est couché sur le côté gauche pendant 390 jours. Je ne serais pas capable de me coucher sur le côté gauche pendant une journée entièrement. Que dire d'Ézéchiel, 390 jours. Il s'est couché sur le côté droit pendant 40 jours. Il a rasé sa barbe et ses cheveux. Aujourd'hui, paraît-il, c'est plus qu'impressionnant, un homme à barbe. Comme quoi, si un homme n'est pas barbu, il n'est pas tout à fait un homme. Allez donc savoir de nos jours qui n'est pas barbu, qui est homme et qui est femme. Ézéchiel a quitté sa maison pour symboliser son départ en exil, etc., etc., etc. Il y a une obéissance aussi que nous ne devons pas oublier. C'est l'obéissance scrupuleuse de Salomon. Salomon. Tandis que la désobéissance nous traîne encore dans des déboires qui ne finissent plus. La désobéissance. La désobéissance, il y en a eu beaucoup dans la Bible que nous pouvons lire. N'oublions pas. Nadab et Abihu. Vous vous souvenez? Nadab et Abihu. Il devait utiliser le feu perpétuel pour un sacrifice. Ils ont utilisé un feu étranger. La désobéissance est toujours punie. Nadab et Abihu ont été tués par un feu. Moïse lui-même a désobéi parce que Dieu lui avait dit dans le désert, tu vas parler au rocher pour qu'il donne de l'eau. Il n'a pas parlé au rocher. Il a frappé le rocher avec son bâton. Désobéissance toujours punie, il n'est pas rentré dans le pays promis. Saül, c'en est un autre cas, nous en savons long. Uzza, vous n'oubliez pas Uzza. La recommandation a été faite. On ne touche pas les choses consacrées si on n'est pas prêtre. Et Uzza, pour bien faire, voyant pencher, pas tomber, mais pencher en quelque sorte l'arche de l'Alliance, il y a touché comme quoi pour épargner. Et qu'est-ce qui est arrivé à Uzza? Il est mort instantanément. David a osé dire au Seigneur qu'il est méchant. Et il y en a d'autres. Mes frères et sœurs, il se fait tard. Le temps avance beaucoup. Je dois vous laisser partir, tout comme moi aussi je dois partir. Il y a beaucoup de choses qui nous portent à réfléchir. Je n'oublierai pas Ozias qui devait offrir des parfums. Mais on lui avait dit qu'il ne doit pas offrir du parfum dans le sanctuaire. Si l'on n'est pas prêtre, Ozias n'était pas prêtre. Et il est entré dans le lieu saint pour offrir des parfums. J'ai lu ça dans 2 Chroniques 26, quelque chose. Et qu'est-ce qui est arrivé à Ozias? Il est devenu lépreux. La désobéissance est toujours punie. Nous demandons, et c'est ça que nous faisons tous, c'est de demander à Dieu de nous garder dans un processus continu pour que nous puissions faire sa volonté. Jésus-Christ a beaucoup souffert parce qu'il avait choisi d'obéir lui-même, même s'il savait que l'obéissance le conduirait à la souffrance et à la mort. Nous sommes heureux, Dieu nous permet de parler de lui librement ici au pays. Dieu nous permet d'avoir beaucoup et beaucoup de choses parfois inutiles dont nous n'avons même pas besoin. Et je crois qu'en retour, nous devons nous garder constamment dans l'obéissance pour que Jésus-Christ puisse nous soutenir, nous garder dans nos difficultés. C'est là ce que je souhaite d'abord à moi-même et ensuite à vous tous, pour que notre Église, pour que notre communauté puisse avancer dans la sérénité, dans l'humilité et surtout pour que Dieu nous permette d'être prêts au moment où il décidera de revenir. Que Dieu nous bénisse.